Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte.
La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne.
20h-22h.
Arrestation hier à Paris de Jacques Mézrine.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous avons le même point faible, vous et moi. La famille.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'était il y a deux jours une grande opération anti-drogue menée à Marseille, une trentaine de personnes interpellées. Et cette question, on s'est posée dans l'équipe de la curiosité, reste-t-il des parrains en région PACA et ailleurs? Pour y répondre, Bruno Aubry, journaliste depuis plus de 25 ans dans la région de Marseille, notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Ce coup de filet anti-drogue visait un réseau qui est, je crois, bien connu à Marseille, celui de la place du Mérou. Qui dirige ce réseau? Est-ce qu'on le sait?
Je dirais qu'aujourd'hui, peu importe qui dirige, je crois que ça va être la différence avec l'époque que l'on va évoquer, mm-hmm. où il y avait des noms qui s'attachaient à un grand banditisme qui était donc autour de figures. Aujourd'hui, il y a plus de noms, il y a des affaires, il y a de l'argent.
Pourtant, il y a toujours des gens.
Il y a toujours des gens, mais on a l'impression que ces personnages sont interchangeables. Peu importe, ce sont des mercenaires de la drogue, du trafic de drogue, puisque c'est principalement l'objet aujourd'hui de la grande délinquance. Et là, en l'occurrence, dans la cité de la Castellane, il faut pas oublier non plus un élément de contexte, c'est que le 9 février dernier, c'est là qu'il y avait eu un accueil du Premier ministre par une salve de tir de Kalachnikov. Donc, je dirais peu importe les noms, mais il fallait sévir.
Il fallait marquer le coup.
Voilà, il fallait marquer le coup, surtout ouais. que ce coup de filet s'inscrit dans une démarche qui avait été entamée par un comité interministériel en septembre 2012 et qui avait redéfini la lutte contre la délinquance avec une sorte de croisement des thématiques et des problématiques autour de ce sujet.
Donc ça veut dire qu'il y a plus de parrains, grosso modo, et on va raconter l'histoire des parrains les plus marquants de ces dernières décennies. Il y a des petits caïds un peu partout, c'est ça?
Il y a des voyous. Petits, ils sont pas si petits que ça. Disons que la hiérarchie a changé. Là où on avait des CDI du crime, on a aujourd'hui des intérimaires, des pigistes de la gâchette, qui travaillent au coup par coup, qui sont pressés, qui sont dans l'urgence, qui veulent de l'argent rapide et qui travaillent donc pour des succursales, des sociétés. La Castellane, typiquement, on appelle ça un plan stup. Il y a pas longtemps, ils avaient même fait des cartes de visite. Donc il y a un plan stup comme ça.
Carte de visite pour vendre la drogue, quoi.
Oui, c'est de l'épicerie, voilà. Il y a avec une carte de fidélité, carte de visite et carte de fidélité. Et au bout de 10 achats, on a briquet, papier, paquet de cigarettes gratuit avec sa barrette.
Bruno Aubry, Marseille, c'est une très belle ville. Et pourtant, elle se plaint souvent de faire que la une seulement à propos de ses règlements de comptes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de morts? Est-ce que cette guerre des gangs fait plus de morts aujourd'hui qu'hier?
Alors, à l'unité près, je ne saurais pas le dire. Mais globalement, il n'y en a ni plus ni moins, je crois, à la louche. Aujourd'hui, on est à peu près à 25 par an dans les Bouches-du-Rhône.
Alors, est-ce qu'on peut comparer avec des chiffres d'autres régions pour vraiment se faire une idée?
Je parle du mort par règlement de compte.
Bien sûr.
Je crois qu'ailleurs, c'est pas significatif. Enfin, 25, c'est de la fois pas énorme, ça fait que 25 morts. Mais si on multiplie, si on imagine ça par 100 départements, ça voudrait dire qu'il y en a il y a 2500 morts en France. Liés à un règlement de compte.
Évidemment,
quasiment
évidemment,
autant que de morts sur la route.
Oui.
Qui a été.
Mais pourquoi il y a une spécificité marseillaise ou des Bouches-du-Rhône alors?
C'est de l'histoire, de la tradition, de la géographie, façade méditerranéenne, proximité avec la frontière italienne, proximité avec la frontière espagnole. C'est un carrefour, donc il y a une opportunité géographique, il y a une opportunité sociale qui est la rencontre de plusieurs phénomènes sociaux et qui alimente toujours cette ouverture vers le crime.
Et parrain, caïd, ça fait rêver les jeunes?
Ce qui fait rêver les jeunes, c'est de gagner en une journée ce que d'autres gagnent en un mois. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas qu'il y ait d'exotisme dans l'affaire. Ouais. Mais...
On va s'intéresser à certains des parrains du siècle, puisque c'est le titre de votre livre publié aux éditions de L'Opportun en format poche. Le patron de l'Express, Christophe Barbier, qui signe la préface, il écrit ceci: « On a tôt fait de prendre les parrains être hors normes pour des héros quand ils ne sont que des salauds. » Hors normes à coup sûr.
Ah oui, ce sont incontestablement des gens qui sortent du lot. Ils auraient pu être capitaines d'industrie, ils sont capitaines du crime, ils sortent de la norme sur le côté à l'ombre, hein, sur le côté caché, la face cachée, mais véritablement, ces parrains-là, ce sont des personnages qui sortent du lot. Peut-être plus que les jeunes voyous dont on parlait précédemment.
Allez, premier exemple, Jackie Imbert dit Le Mat. Il a inspiré un livre et un film, L'Immortel.
C'est une question d'honneur. J'ai fait ça pendant 40 ans. À quoi ça sert l'honneur quand t'es mort? Si on me tue, ça sera la guerre.
Mais putain, Charlie, réveille-toi, c'est déjà la guerre.
Charlie! Vous savez mieux que personne ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher au monde.
Les histoires de voyous, j'en ai rien à foutre.
S'enverser ne sèche jamais.
C'est pas parce que tu t'es acheté une conduite que tu as tout effacé.
Si tu baisses ta garde une seconde, t'es foutu.
L'Immortel avec Jean Reno, adapté du roman de François-Olivier Gisbert. Pourquoi le surnomme-t-on, Jackie Imbert, l'Immortel? Que lui est-il arrivé le 1er février 1977?
Peut-être que Mocky l'aurait surnommé le Miraculé. il sort indemne. Enfin, quasiment indemne, mais il est laissé pour mort un jour de 77 sur le parking de sa résidence, les Trois Caravelles, à côté de Marseille, et il est perforé littéralement de 22 balles, et il s'en sort. Il s'en sort, alors après il gardera une petite claudication, mais il s'en sort et il est laissé pour mort par ses tueurs.
Qui le vise ce jour-là, Jackie Imbert, dit l'immortel?
Ah, ça.
C'est toujours difficile de répondre à cette question, même, oui. Même 30 et quelques années plus tard.
Non, bien sûr qu'on a les choses se sont décantées. C'est ses alliés d'hier qui deviennent ses ennemis du moment, c'est-à-dire que c'est la bande d'un autre parrain, qu'est Gaëtan Zampa, avec lequel il s'est allié. Il dit même j'aurais tout fait pour Gaëtan, surnommé Tani. J'aurais tout fait pour Tani. J'ai fait sauter ses enfants sur mes genoux et il m'a mis 22 balles dans la peau. Alors, après, il s'est vengé, Jackie Le Mat.
Alors, Jackie Le Mat, Jackie Imbert, qui est aujourd'hui un paisible retraité, mais est-ce qu'on n'est jamais vraiment retiré des voitures? Réponse dans une minute.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Avec Bruno Aubry, journaliste dans la région marseillaise et grand spécialiste du milieu, on vous raconte l'histoire des parrains, ou plutôt de ce qu'il en reste, car tous ou presque aujourd'hui sont morts. On parlait de Jackie Imbert, 85 ans, surnommé l'immortel pour avoir survécu à un règlement de compte. Vous nous racontiez ça, Bruno Aubry. Le corps criblé de 22 balles, c'était en 77. C'est le survivant, c'est ça, le dernier des Mohicans, Jackie Imbert?
Oui, alors, vous savez, dans ce métier-là, On s'en sort rarement vivant. On traverse rarement la vie. Alors, arriver à 85 ans, en étant toujours vivant, avec un casier judiciaire, un casier judiciaire vierge, ou quasi vierge, c'est quand même un exploit.
Comment c'est possible, ça?
Ah, bah, ça,
devant
c'est
un casier judiciaire vierge.
Ce sont les mystères de la justice, mais,
Parce qu'il a été condamné, il a fait de la prison. Plusieurs fois.
Oui, mais il a fait appel. Beaucoup de choses ont été annulées. Les peines inférieures à 2 ans sont effacées au bout d'un certain temps. Donc, il y a le jeu, hein, le mécanisme judiciaire fait que les peines finissent par s'effacer et force est de constater qu'il en a eu relativement peu. il a réussi à passer au travers des gouttes. Il a de bons avocats.
Mais il vit où aujourd'hui? C'est quoi sa vie, Jackie Imbert, diplomate?
Je crois qu'il s'est expatrié. Mais c'est un père. C'est aujourd'hui, c'est un papa. Il est père d'un petit garçon qui doit avoir 8 ans, je crois, aujourd'hui.
Puis il doit être perdu dans cette nouvelle géographie de la mafia, ces nouveaux caïds. Il a plus sa place finalement de parrain, Jackie Imbert.
Ce sont souvent des bons pères. En tout cas, des pères très présents, très marquants, mais qui sont soucieux de l'éducation de leurs enfants.
Pardon, je vous interromps, parce qu'il faut qu'on file, on a plein d'autres parrains à découvrir. Pourquoi, juste dernière question sur Jackie Imbert, pourquoi on le surnommait Le Mat? Ça veut dire quoi, Jackie Le Mat?
Le fou, tout simplement. Juste pour illustrer, il avait été capable, quand il avait un contentieux au début de sa carrière, de prendre un avion, de traverser la Méditerranée, d'aller chercher son ennemi à Oran, de le mettre dans l'avion et de le ramener à Marseille, de l'enfermer dans une cave et de le libérer sous rançon, sous versement d'une rançon.
Voilà. Voilà ce qu'était Jacques
Lemat. Le Mat.
Allez, on raconte un autre parrain dont vous dressez le portrait dans votre livre Les Parrains du siècle, publié en version poche chez L'Opportun. C'est Farid Berrama, dit l'Indien. Alors là, c'est un peu l'archétype du bandit marseillais des années 2000. Alors, vous allez voir, il est fan de foot. Un soir d'avril 2006, il est dans une brasserie marseillaise et il regarde ce match Milan AC Olympique Lyonnais, quart de finale retour de Ligue des Champions.
Ormai Ambrosini fa la prima punta, eccolo qua. Salta Ambrosini, la palla è passata, Shevchenko.
Vous regardez vos matchs en italien, vous, Thomas?
Non, je les regarde en français, mais on a trouvé que la version italienne, on vous dit tout. But de Pippo Inzaghi qui qualifie les Milanais. Farid Berrama, est-ce qu'il a eu le temps de le voir, tiens, ce but, Bruno Aubry?
Alors, je ne sais plus...
À quel moment?
À quelle minute du match il a quitté la scène. Je ne m'intéresse pas beaucoup au foot, donc j'ai pas bien... Mais je sais qu'il n'a pas... Il ne connaît pas le résultat final, ça c'est sûr.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
Tout se passe dans une brasserie à Marseille. Il y a eu la brasserie du Tanagra, il y a eu le bar du téléphone. Là, on est à la brasserie, au bar des marronniers. Donc, il regarde le match avec quelques-uns de ses lieutenants et soudain, quelques calus, comme on dit dans la région, des fous,
des
tireurs, des mats, débarquent, font feu, mitraille à tout va, il y a 3 morts. Voilà, dont Farid.
Alors derrière vous dites des quoi avec des
calus?
Derrière ces calus, il y a qui? On trouve qui?
Alors
d'autres parrains, d'autres mafieux.
Farid Berrama, c'est vraiment l'articulation, c'est le changement de siècle. Le siècle des parrains s'achève en 2000 avec la mort du Belge, pas très loin d'ici d'ailleurs, aux Champs-Élysées.
Francis Van Verberg, c'est
Francis
ça
Van Verberg. C'est plus facile pour un Marseillais de dire le Belge que Van Verberg. Hein.
Donc on va l'appeler Francis le Belge.
Donc, il décède en 2000, il laisse un héritage. Le partage de cet héritage est conflictuel. Farid Berrama est là-dedans à revendiquer une part de l'héritage. Il est à l'ombre à un moment parce que en prison, il ressort. Il y a des luttes d'influence. Les Corses interviennent là-dessus. Et donc là, il est victime de l'irruption des Corses sur la scène criminelle locale. Et depuis 2006, on peut dire que le paysage de la grande criminalité s'est reconstruit autour de paradigmes différents.
Et ce Farid Berrama, c'est quoi sa spécialité? C'est le règlement de compte?
Alors Farid Berrama, il a cet intérêt que c'est lui qui a inventé, fait émerger la méthode du barbecue. Je vous explique.
C'est quoi le barbecue?
En un mot.
On craint le pire.
En un mot, on tue sa victime d'une balle, on la met dans le coffre de sa voiture et on met le feu à la voiture. Alors, Farid
Pour ne
Berrama,
pas laisser de traces, j'imagine.
Voilà, il a inventé ça quand l'identification par ADN a surgi. Donc on retarde l'identification de la victime. Retardant l'identification de la victime, on retarde l'identification de l'éventuel auteur du crime.
Et quand vous dites c'est une nouvelle génération de parrains ou de caïds, ça veut dire que justement le rapport à la mort, il est différent? Ça tue plus ou plus facilement?
Alors... Oui, c'est C'est une question à laquelle il est à la fois simple de répondre et en même temps compliqué. Il ne tue pas plus ni moins mais différemment, sans vergogne, sans état d'âme. Et c'est un banditisme qui est associé à la délinquance des cités.
Et je rappelle la citation de Christophe Barbier, on a tôt fait de prendre les parrains être hors normes pour des héros quand ils ne sont que des salauds. On va continuer de raconter l'histoire de parrains.
Il y en a dans le Var.
Ouais.
Et on vous racontera la saga des Varois Loulou Régnier et Jean-Louis Fargette.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, on entrera dans un cerveau humain pour comprendre comment la musique nous fait plaisir, nous fait bouger, nous fait consommer aussi.
Ce sera juste après les infos. RTL, il est 21h.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un très très vilain défaut, bien sûr, sauf jusqu'à 22h. Sur RTL, on attend vos questions au 3210 au bout du fil. Il y a Coraline qui remplace Diane qui est partie en vacances à Venise. On vous raconte tout. Vous connaissez bien l'équipe de la curiosité maintenant.
Et puis les photos aussi... des vacances de Diane à Venise.
Oui, on a vu
sympa.
Une, c'est très beau. Hein. Ouais, on l'envie. Hein. Mais elle a mérité ses vacances.
C'est vrai.
Vous pouvez aussi réagir sur RTL.fr ou le hashtag pour les super branchés, hashtag la curiosité RTL.
Tout à l'heure, on entre dans un cerveau humain. Si, mais attention, pas pour y faire n'importe quoi. On va comprendre pourquoi la musique nous procure des émotions, nous fait danser, nous soigne et parfois aussi nous pousse à consommer. Mais tout de suite, la saga des parrains du Var.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il s'appelle Loulou Régnier et Jean-Louis Fargette. Ils ont régné sur le milieu du Var et on va vous raconter leur histoire tout de suite avec Bruno Aubry qui est journaliste dans la région marseillaise depuis plus de 25 ans. On a dressé rapidement le portrait de quelques parrains dans les minutes qui précédaient 21h. Ici s'avance, là dans le studio de la curiosité, deux hommes qui ont 25 ans d'écart à peu près, un peu plus. Loulou Régnier, c'est l'aîné, Jean-Louis Fargette, le plus jeune. Où se sont-ils rencontrés ?
Il y a une génération d'écart. Ils se sont rencontrés au bar aux trois canards,
c'est voilà. Ça
C'est quoi une histoire de bistrot et de bar, c'est ça ?
C'est quoi ce lieu ? C'est à Paris, c'est ça ?
C'est un lieu de torture où Daesh n'a rien à leur envier. C'est à Pigalle, un bar dont la cave était particulièrement renommée, puisque c'est là qu'ils conduisaient leurs victimes et qu'ils leur faisaient subir des tortures absolument abominables. Et c'est le lieu où se sont rencontrés. Jacques Lemat, qu'on évoquait tout à l'heure, y est passé aussi. Jean-Louis Fargette, Loulou Régnier, les grands du crime ont fait leur école aux Trois Canards. C'est l'université du crime.
Il existe toujours ce bistrot, les Trois Canards, à Pigalle ?
Oui, si vous voulez, à 22h, on va boire un coup.
Oh non, écoutez, la cave
surtout,
existe toujours.
On espère que la cave a changé de destination. Hein. Sinon, on n'y va pas.
Hein. Il y a quelques bonnes bouteilles.
Je vous préviens, on n'est pas très courageux. Hein.
Franchement, on ne va pas y aller. Bruno Aubry, même si vous êtes très souriant.
Si on n'a rien à se reprocher.
Oui, mais bon, on ne sait jamais.
Comment le jeune Fargette a-t-il gagné la confiance de son aîné de 25 ans, Loulou Régnier ?
Quand il est parti en Afrique, Loulou Régnier lui a confié ses affaires. Et quand on sait ce que ça veut dire dans ce milieu-là, c'est véritablement un passage de témoin et voilà donc
il y a aussi des dossiers concrètement à traiter quoi c'est ça
oui voilà c'est ça oui le business quoi hein, quelques bars quelques filles sur lesquelles il a gardé un œil et voilà quand il est revenu d'Afrique il savait qu'il pouvait retrouver ses affaires.
Mais j'ai lu dans votre livre « Les parrains du siècle » aux éditions de L'Opportun que Jean-Louis Fargette avait peut-être sauvé la vie de Loulou Régnier. C'est une légende, on n'en est pas sûr, c'est ça ?
C'est ce qui se raconte en tout cas en Italie. Il est allé le sortir d'un mauvais coup en Italie. Mais c'est ce qui... Alors, c'est le supplément d'âme, je dirais, des parrains. C'est que la réalité et la légende, il y a un moment donné où on ne sait plus exactement où est la frontière entre les deux. Ce sont des vieilles histoires, ça se transmet dans le milieu. Mais il y a une part de vérité, certainement.
Loulou Régnier, surnommé aussi l'avocat ou le juge de paix, pourquoi il a ce surnom dans le milieu ?
Il a jamais pris parti dans les conflits qu'on a évoqués tout à l'heure. entre le relais compris, les Guérini, Zampa, le Mat, le Belge. Il a toujours su garder ses distances et garder de bonnes relations diplomatiques avec tous les camps. Et c'était véritablement une faculté, ce qui lui a permis de sauver sa peau jusqu'au dernier jour, puisqu'il est mort tout simplement d'un cancer dans son lit.
Ça, c'est ce que vous nous disiez, c'est ce qui est un exploit pour un parrain.
Et il avait un casier judiciaire bien fourni, j'imagine, Lou Lourinier.
Vierge, bien sûr, vierge. Ça, sinon, on n'est pas parrain. Hein. Le parrain, c'est d'être fiché au grand banditisme, oui, et d'avoir un casier judiciaire vierge.
Mais quand on est fiché au grand banditisme, c'est que forcément on a un casier.
Et non.
Pourquoi ?
Non, c'est une renommée, c'est un label. Décerné par les flics. Jean-Louis Fargette, il était ravi quand il à 24 ans, eu droit à son label
de
fichier du grand banditisme.
On racontera dans le détail la vie de Jean-Louis Fargette, mais là on s'accroche à Louis Régnier, Loulou Régnier. Vous dites casier judiciaire vierge, pourtant en 58, il a 36 ans, il est condamné à perpétuité. Pour quel crime ?
Et c'est une affaire de proxénétisme.
Il a tué un homme.
Ça n'a pas été démontré et il a finalement été acquitté de cette accusation.
Et je vous pose la question. La question parce que dans l'entourage de ce Loulou Régnier et aussi de Jean-Louis Fargette, il y a des politiques, il y a des soutiens politiques. Est-ce que ça a joué dès la fin des années 50 quand il est accusé de ce meurtre ?
Alors, c'est toute l'affaire du Toulon de Maurice Arex, où il y avait
Maurice Arex, il faut dire que c'était le maire de Toulon.
Le maire de Toulon, fin des années 40, début des années 50, plus exactement, jusque au milieu des années 80. Et donc, il y avait des comités d'affaires qui existaient et qui réunissaient les gens du milieu, les entrepreneurs et les politiques. Et il y avait des réunions officielles entre ces trois vecteurs du développement local. On peut le dire comme ça. Et ces affaires-là, les affaires liées à Maurice Arex ou liées à Loulou Régnier ou liées à Jean-Louis Fargette, elles ont ça en commun, c'est d'avoir révélé une véritable entente entre les affaires, le milieu et la politique.
C'est-à-dire que Loulou Régnier, par exemple, il a participé à des campagnes électorales, il a pu faire pression sur des opposants.
Pas lui directement, il était un homme d'influence et là aussi il était un juge de paix.
Mais il y avait un rôle officiel, par exemple, je sais pas, d'assurer le service d'ordre. Est-ce qu'il y a une
couverture ?
Est-ce qu'il y a une couverture, en quelque sorte, dans cette relation entre le milieu et les hommes politiques dans le Var des années 50, 60, 70 ?
Alors, elle est plus flagrante si l'on considère Jean-Louis Fargette, qui est en quelque sorte le fils spirituel de Loulou Régnier. Il y a une sorte de filiation dans les affaires. Jean-Louis Fargette, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand il a des ennuis, Maurice Arex va témoigner pour lui et lui sert d'alibi. Il dit « il était avec moi dans mon cabinet ». Donc, et il est maire de Toulon, une ville de 160 000 habitants. Il n'a pas honte de dire que un chef de gang était dans son bureau pour parler. Alors, on parlait d'élection. Je ne sais plus quelle élection c'était. Il me semble que c'était au moment de l'élection présidentielle de 81. Et il n'a pas peur donc de lui fournir un alibi pour une affaire de chèque volé. Voilà. Et donc il sauve sa peau comme ça, Maurice Arex.
Loulou Régnier.
Jean-Louis Fargette.
Oui. Et Loulou Régnier, est-ce qu'il est décédé ?
Alors, Loulou Régnier est décédé en 2003.
Oui, d'un cancer. Ces dernières années, il les passe comment ? Au calme ?
Retraité tranquille, ça existe dans le milieu ?
Retraité tranquille dans la vallée du Gapot, à l'est de Toulon. Mais son fils est décédé dans la tradition du milieu. En 96, un dimanche matin, quasiment en allant à la messe, il allait acheter une bonbonne de gaz, je crois, et il est exécuté au volant de sa voiture, donc dans la plus pure tradition du milieu. C'est les dernière manifestation du clan Régnier.
Et peut-être une autre manifestation du clan Régnier, c'est son fils spirituel, Jean-Louis Fargette, surnommé le boss du Var ou encore la Savonnette, son histoire.
Juste après Roberto Alagna.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité avec Bruno Aubry qui publie Les Parrains du siècle en version poche aux éditions de L'Opportun. On vous raconte maintenant l'histoire de Jean-Louis Fargette, le boss du Var à partir de la moitié des années 70. Pour dresser le portrait du personnage, Bruno Aubry, quel drôle d'animal de compagnie avait-il chez lui ?
Une lionne. Gina. Gina.
C'était pas sa femme.
Non,
c'est pas une expression.
Non.
Il l'a gardé, tout le monde a des surnoms.
Il l'a gardé longtemps, sa lionne.
Ah, je sais pas. Alors là sincèrement, je sais pas. Je pense qu'il a dû l'abandonner, le pauvre, puisqu'il a quitté la scène prématurément, la scène géographique, je veux dire.
Du Var et du milieu marseillais parce qu'il a dû fuir la police qui lui vaudra son autre surnom. Est-ce que c'était un flambeur, Jean-Louis Fargette? Comment vous le décririez?
C'était peut-être un mythomane. Il a cette sorte d'ambition, on va dire, de tout parrain. Il voulait, par exemple, racheter le France et mettre dans la rade des vignettes à Toulon, en cheville avec l'impresario de Mike Brandt à l'époque, l'amarrer au large de Toulon, dans la rade des vignettes, pour en faire une boîte de nuit. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a essayé à Beyrouth. Et puis là-dessus, Ventrop, l'impresario de Mike Brandt, est mort. Il a dû abandonner le projet.
Mais attendez, vous êtes allé trop vite. Il a voulu racheter le paquebot France,
oui,
bien entendu.
Ben oui, bien sûr, oui. Parce que
il en avait les moyens.
Il aimait bien le showbiz. Oh ben oui, ça dégage quelques bénéfices quand même. Le business, il avait des boîtes de nuit, les caves varoises. Il faisait de la livraison de vin et spiritueux.
Jean-Louis Fargette, qu'est-ce qu'il a offert à l'un de ses avocats qu'il avait mis hors de cause dans une affaire?
Alors, c'était l'affaire
de Tiercé truqué, c'est ça?
L'affaire Bride abattue, dans laquelle il y avait aussi Jacky Le Mat. Vous voyez que c'est quand même un monde, hein, ouais, qui est assez, c'est les VIP du crime. Et donc, avec son sens de l'humour, où il lui avait offert une lithographie de Dali représentant un cheval au galop.
D'accord. Donc là, on a à peu près le portrait de ce Jean-Louis Fargette. L'un de ses surnoms, c'est le boss du Var. C'est un Varois d'origine. Il est né dans la région.
Il est né à La Valette. Et alors, je passe aux télés étapes, mais ce village de La Valette lui rend hommage lorsque il est mort. Il y a une minute de silence dans toute la ville de La Valette, village qui est devenu ville entre-temps, petite ville à la périphérie dans la banlieue de Toulon. Toute la ville lui rend hommage par une minute de silence et tous les commerçants baissent le rideau. Et
mais chaque année?
Non, le jour de ses obsèques.
Le jour de ses obsèques.
On racontera ses obsèques parce que c'était parti. Tout est possible.
Vous me donnez une idée. Je suis sûr que si je lance l'idée à La Valette,
ça pourrait plaire. On racontera les obsèques de Jean-Louis Fargette.
Mais vient de quel milieu, oui, Jean-Louis Fargette? Ouais. Il est d'une famille de mafieux déjà?
Non, pas du tout. Un père militaire qui est d'ailleurs décédé. Dans la
un événement particulier qui survient en 1959. Je vous interromps, on écoute.
Voici les dernières images qui nous parviennent de Fréjus. Le barrage de Malpassé, le barrage qui tue. Et l'énorme brèche par laquelle l'effroyable vague a déferlé, semant la ruine et la mort dans la vallée. Le barrage a été littéralement éventré par les 50 millions de mètres cubes d'eau. Seuls les côtés subsistent.
Alors ça, c'est la catastrophe majeure de la fin des années 50. La ville de Fréjus touchée, toute la région touchée. Et le père de Jean-Louis Fargette meurt dans cette catastrophe, c'est ça?
Oui, la ville de Fréjus est littéralement noyée. Il y a 453 morts, je crois. C'est le 2 septembre 1959. C'est l'heure de la piste aux étoiles. Zavatta annonce « je vais sauter ». Le barrage se rompt. La vague submerge et les Fargettes, de retour de Calédonie, puisqu'il était militaire, il avait été envoyé en Calédonie, il est de retour, il est basé dans un de ses camps militaires sur la route qui va de Fréjus à Bagnols-en-Forêt et il est l'une des 453 victimes du barrage de Malpassé. Ils ont 7 enfants, les Fargettes.
Jean-Louis Fargette, ses premiers pas dans la délinquance, il est fait comme quoi? Proxénète?
Oui, ils aiment, oui, ils aiment les filles.
Mais pardon, Sidonie, mais la mort de son père, ça, avant, ça se passait bien. C'était pas un petit voyou. Il a 11 ans quand son père meurt et il bascule à cause de ça. Est-ce que vous diriez ça? On ne cherche pas des excuses, hein, mais on cherche à comprendre.
Non. Alors, ce sont des Fargettes, Régnier, ils viennent de milieux tout à fait honorables. Régnier était fils de banquier, il a une licence. Fargette, il est fils de militaire, tout va bien. Il a simplement le sens de l'honneur et puis c'est un sanguin du sud. Alors je crois que la première incartade dans sa vie c'est parce que on vient lui chercher des noises dans un des restaurants qu'il dirige. Donc il tire sur l'un de ses agresseurs et voilà, il commence à être poursuivi pour ça et commence sa carrière de petit délit, de petit larcin, mais jamais très grave, jamais de choses très graves.
Il n'y a pas eu de meurtre, il a tué personne, Jean-Louis Fargette, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Non, il a tué personne, Jean-Louis Fargette.
Jean-Louis Fargette, il est fiché au grand banditisme à l'âge de 24 ans. Que dit sa fiche, vous l'avez en tête?
De mémoire, capable de tout, mais
de toutes les actions pour s'imposer dans le milieu toulonnais, voilà. Capable de tout.
Ouais. Et oui, c'est le boss, le grand aussi, on l'appelait. Donc c'est révélateur, c'est surnom, on n'y a pas droit pour rien. Et il voulait littéralement, et il avait la main sur le Var, il avait la main sur la politique, il avait la main sur le milieu des affaires, il avait la main sur le milieu tout court.
Et comme l'immense majorité des parrains, il sera tué de quelques balles dans la peau en mars 1993. On termine avec ses obsèques, elles sont mémorables. Pourquoi? Il y a combien de personnes qui assistent à ces obsèques?
Oh, de mémoire, un millier dans le cortège, plus, je vous ai dit, la ville qui véritablement pleure la mort du grand, et il y a une gerbe de fleurs d'élus varois. Tu es le boss et tu le resteras.
Des élus,
oui.
Donc ça nous ramène à cette collusion entre la politique et le milieu dans ces années-là,
qui est officielle, affiché, et on est en 1993.
Merci beaucoup Bruno Aubry, je rappelle que votre livre Les Parrains du siècle, Destin et Déclin est publié en format poche aux éditions de L'Opportun.
Et dans un instant, on plonge dans notre cerveau pour comprendre ce que provoque la musique. Elle nous fait plaisir, elle nous soigne, elle nous fait acheter aussi. Jean-François Bouvet, biologiste et mélomane, est notre invité et on va l'accueillir en musique évidemment avec Who's Here, Take Me to the Church.